Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Radio Cité Genève, c'est le retour de nectar.ge.ch, l'émission consacrée au vin genevois, avec Aristide. Bonjour.
Aristide a le plaisir de vous saluer et de vous dire d'emblée qu'aujourd'hui nous allons sortir du sujet, parce que les vins genevois c'est très très bien, mais on ne vit pas seul dans une bulle, et il n'est pas inintéressant de voir de temps en temps ce qui se passe de par le vaste monde. Voilà. Simplement, il s'agit de faire des comparaisons. On peut porter au pinacle les vins genevois, mais on ne doit pas ignorer une concurrence qui est des fois respectable et des fois un petit peu moins. Voilà. Alors, nous commençons comme chaque fois par une citation, parce que nous tenons à l'érudition dans cette émission. Et voici une citation de Bossuet. « Le vin a le pouvoir d'emplir l'âme de toute la vérité, de tout savoir et philosophie. » Alors c'est très beau, c'est très exaltant ces phrases, mais je me suis dit que quand même, là, papy Bossuet, tu dérailles. Tu dérailles parce que le vin a le pouvoir d'emplir l'âme, ça on en convient, on est d'accord. Très bien, voilà, remplis l'âme. De toute vérité, pourquoi pas la vérité, parce que il y a une vérité du terroir, il y a une vérité du vin, nous y croyons ferme. De tout savoir. Alors là, j'ai des doutes, hein, parce que quelqu'un qui est ignorant, il peut boire beaucoup de vin, il sera pas plus savant après. De tout savoir, donc là, Bossuet, non. Et puis, de toute philosophie, ce qui fait qu'un abruti, s'il boit du vin, eh bien, après avoir bu, après avoir dégusté, il est tout autant abruti. Donc, des belles phrases de poète à la gloire du vin, on est d'accord, mais monsieur Bossuet, qui s'est signalé par de magnifiques oraisons funèbres, déraille. À son âme.
On aurait pu dire in vino veritas, hein.
Mais oui, exactement. Dans le vin, il y a une certaine vérité. C'est une vérité du terroir, c'est une vérité qui nous permet de renouer avec ce qui n'est pas virtuel, qui nous permet de renouer avec la nature. Donc, il y a une certaine vérité dans le vin. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus détestable que les tricheries dans le vin, le bluff dans le vin, et c'est un petit peu le sujet de cette émission.
Radio Cité Genève.
À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, 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 le temps a abjuré, sans peur du ciel, le naturel, d'une note passée. Cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Oh, ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur. Oh, ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour sur Radio Cité Genève dans nectar.ge.ch, une émission présentée par Aristide, aujourd'hui spéciale fraude.
Donc les fraudes, il y en a beaucoup dans le domaine du vin. Moi, je me rappelle, il y a environ 20 ans, il y avait un négociant farfouillard dans le budget, qui livrait des grands supermarchés, et un beau jour, sa cuve a explosé. Vrai. Une cuve qui explose. Alors on peut se poser des questions sur la façon dont ce négociant pratiquait, mais enfin bon, ça arrive. Et puis, près de nous, il y a eu en Valais l'affaire Giroux.
Alors dans le budget, on rappelle que c'est un vin mousseux, là, c'est le...
Non, c'est pas.
Au budget.
Alors, dans le budget, effectivement, vous avez le Cerdon.
Le Cerdon, c'est pas ça.
Qui est un vin mousseux, qui est fait avec le cépage rouge. Non, pas du tout. Non, c'est un traficoteur.
Ah, d'accord.
C'est un traficoteur. Voilà. Et donc, à ne pas confondre avec l'honorable vin du Cerdon, qui est un vin tout à fait original, charmant, dont on peut boire, disons, assez généreusement, parce qu'il a un degré d'alcool qui est faible. C'est 8 degrés environ, et qui est un joli fruit, et qui est dû à ce cépage qui s'appelle le Pulsar. Voilà, alors pas de confusion.
Non, celui-là, il explose en bouche, il explose pas dans le camion.
Exactement, très très bien. Et alors, il y a eu la fraude Giroux, et puis c'est vrai qu'on sait que des fraudes, il y en a passablement. Dans une émission antérieure, je me rappelle avoir cité un grand expert, analyste du vin, donc un chimiste, qui disait dans les grandes ventes aux enchères, il y a environ 10% de faux. Malgré la traque, parce que quand il y a une vente aux enchères, vous avez les grandes maisons qu'on connaît, c'est Sotheby's, c'est Christie's, et ils font de plus en plus attention. Et malgré cette attention, dans des ventes aux enchères, il y a environ 10% de vins qui, à l'analyse, donc du point de vue chimique, dépendamment de l'observation des étiquettes et des bouchons, qui s'avèrent être des faux. Voilà. Alors, j'aimerais peut-être évoquer quand même avant, pour planter le décor, la notion de grand vin. Parce que tout le monde se targue de grand vin, et sur beaucoup d'étiquettes, peut-être la moitié de ce qu'on trouve dans le commerce, c'est marqué « grand vin de Bourgogne »,« grand vin de Bordeaux »,« grand vin vaudois »,« grand vin », etc. Voilà. Alors, la notion de grand vin, j'aimerais quand même la relativiser un tout petit peu, parce que le monde du vin est extrêmement mobile. J'aimerais donner l'exemple d'un concours qui s'était fait, qui avait été organisé en France il y a une dizaine d'années par des sommeliers. Et ces sommeliers avaient dit, ben voilà, on va faire une dégustation avec 100 bouteilles à l'aveugle et on va élire le meilleur vin du monde. Et en lice, on avait quelques grands châteaux, enfin les célébrités, les grandes gloires du Bordelais, de Bourgogne, etc. Vous aviez peut-être un château Lafitte, un château Pétrus, vous aviez peut-être du Chambertin, etc., etc. Voilà. Donc, une dégustation huppée dans laquelle il y avait quelques intrus. Et ces messieurs, les professionnels et sommeliers, ont dégusté et ont déclaré meilleur vin du monde, un Corbière, qui coûtait environ 15 francs.
C'est ça.
Et à l'époque, je me rappelle parfaitement, on le trouvait chez Manor. Voilà. Donc, en lice, vous aviez des vins qui coûtaient 200, 300, 600 francs. Et pourtant, voilà.
Le Corbière a dû être dévalisé, alors il ne devait plus en avoir.
Il était délicieux, je confirme.
Ah ouais.
Mais il faut faire attention à une chose, c'est qu'un vin, c'est une courbe. Il mûrit, il redescend, et tout dépend du moment auquel on attrape le vin. Donc, l'art du bon vin, je dirais, c'est l'art d'attraper la bouteille au bon moment, à son maximum. Ni trop tôt, ni trop tard.
Avant de continuer dans les fraudes, Aristide, j'ai une question quand même. L'appellation grand vin, alors grand vin de Bordeaux, grand vin, ça n'a rien d'officiel.
Non, ça n'a rien d'officiel. Contrairement aux grands crus.
Grand cru, là, c'est officiel, on est d'accord.
Grand cru dont il faut se méfier, parce que les grands crus en Bourgogne, c'est du sérieux. Il faut savoir que les crus classés, par exemple, en Provence, les rosés, c'est des crus autoproclamés. Voilà.
Et comme les grands vins de Bordeaux, alors.
Voilà. Alors, Bordeaux, il y a un classement. Mmh. Pourquoi on ne parlerions-nous pas du classement de Bordeaux ? Les Médocs sont classés en 5 catégories. Premier grand cru classé, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Jusque-là, tout va bien. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les domaines, ils avaient de toute haute surface. Vous avez peut-être un domaine qui était classé en 1855, qui faisait 24 hectares, et qui aujourd'hui en fait 83. Donc, les remembrements parcellaires sont des choses absolument continues. Et puis, il y a une autre considération qui peut entrer en ligne de compte, c'est qu'à l'époque, c'était pas les mêmes cépages. En 1855, dominait dans le Médoc, le Carménère, qui est un cépage qu'on retrouve au Chili maintenant, et d'autre part le Malbec, qu'on trouve largement en Argentine.
Aussi, oui.
Et c'est après 1855 que sont venus le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc et le Merlot. Donc, la comparaison entre 1855 et 2019, si on l'a fait de manière rigoureuse, elle montre que presque tout a changé.
Bon, on s'est un peu égaré là dans le classement des vins. On fait une pause et on revient juste après.
Voilà,
à tout de suite.
Voilà, pause.
Radio Cité Genève sur internet.
www.radiocité.ch.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour dans nectar.ge.ch sur Radio Cité Genève avec Aristide, et on est dans une spéciale fraude. On en apprend de belles aujourd'hui.
Voilà, on en apprend de belles. Alors, on a parlé des grands vins. Maintenant, il faut parler aussi des grands connaisseurs, parce qu'on a tendance à se fier à des gens qui ont un palais et une mémoire absolument fabuleuse et qui décrètent ça, c'est un corton de tel domaine de l'année 1955, etc. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ben, je donne un exemple. Il y a environ 30 ans, régnait sur Bordeaux un personnage d'ailleurs tout à fait remarquable, qui était le professeur Émile Penaud. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom.
Jamais.
C'était le patron de l'université du vin à Bordeaux. C'était le chercheur de pointe. C'était, si on veut, le pape du Bordelais. Il a enseigné des volets de d'œnologue. Et il avait été invité il y a quelques années, pas mal maintenant, à une émission de Bernard Pivot, apostrophe. Mm-hmm. Comme on le sait, Bernard Pivot est un vrai ami du vin, un vrai connaisseur. Il est en il est enraciné dans le Beaujolais parce que c'est sa terre natale, mais aussi en Bourgogne où il appartient à d'importantes confréries. Bon. Alors Pivot avait invité le professeur Émile Penaud. Et à un moment, c'est un peu vachard à mon avis, il le soumet à dégustation. Une bouteille chemisée, on lui verse un verre à monsieur Penaud. Et il commence à analyser le vin. Il prend son temps. Et voilà qu'il dit que c'est un petit jus, que voilà un vin qui n'a pas de longueur, un vin qui manque de diversité aromatique, etc. Il avait à peu près toutes les tares.
Oula.
Et vient le moment où on enlève la chemise et on s'aperçoit que c'était un château Aubryon d'une bonne année, premier grand cru classé des graves, le plus grand de tous les graves. Et alors, le pauvre monsieur Penaud, auquel je porte quand même grand respect, était tellement mortifié de cette déconvenue que chaque matin, quand il se rendait avec sa voiture à l'université du vin de Bordeaux, pour y enseigner, il faisait le détour pour ne pas passer devant le château Aubryon. Il était traumatisé.
Ah oui, je comprends.
Traumatisé. Alors, cette mésaventure, elle est arrivée à bien d'autres. Donc, voyez, on dit un grand connaisseur. Ah, tiens, ben, je pense à monsieur Parker, par exemple. Il donne, 89 points sur 100. Ou 99 points sur 100. Faut pas se fier à monsieur Parker. Faut pas s'y fier. Et j'en ai fait l'expérience parce que, j'avoue aux auditeurs que j'ai aussi mes fantasmes de temps en temps. J'ai voulu goûter une fois un vin qui avait 100 sur 100 dans le guide Parker. Je n'ai pas acheté très cher d'ailleurs, à un ami qui est négociant, bon. C'était un Clos Fourtet, premier cru classé B de Saint-Émilion, qui est un vin extrêmement honorable, extrêmement sûr. Et voilà, j'ai dégusté le 100% Parker. Il était bon, il n'était pas mémorable, il était un peu mou, un peu doucereux. Il n'avait pas de longueur particulière, c'était un excellent vin, mais une fois encore, c'est pas la bouteille qui m'a fait tomber à genoux.
On est d'accord que la dégustation à la Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse, c'est carrément impossible.
C'est de la rigolade.
Hein, c'est pas possible.
C'est de la rigolade. Encore qu'il faille bien dire que, à la vue, on peut détecter beaucoup de choses.
Oui.
Le cépage. Par exemple, si vous avez un verre de Syrah et un verre de Pinot Noir, c'est pas du tout pareil à la couleur.
On est d'accord.
On peut détecter l'âge aussi. À la vue. Et pour l'aile ou la cuisse, aussi, ce qui manque dans cette séquence du film, c'est le moment où le vin tombe dans le verre.
Ouais, c'est ça.
Parce que si il adhère aux parois du verre,
s'il pleure,
comme on dit, avec des gouttelettes qui descendent lentement jusqu'au fond du verre, c'est un signe. Voilà. Donc, le bruit du vin et la façon dont il coule, c'est pertinent. Donc, il n'y a pas que le palais, il n'y a pas que le nez. Mais dans l'aile ou la cuisse, c'est extrêmement bien fait. C'est de la rigolade, techniquement. Mais, encore une fois, il y a des indices dans la bouteille, et puis il y en a un que je dois pas oublier, c'est les tanins. Et quand vous avez, donc une bouteille qui était consciencieusement stockée dans une cave, donc horizontalement, il y a des dépôts qui se font, c'est des tanins, c'est une tracée noire sur le fond de la bouteille, et quand le vin mange ces tanins, c'est-à-dire que les tanins sont peu à peu rongés, ça veut dire urgence. Buvez cette bouteille, c'est un ordre.
Et au niveau de la fraude, est-ce qu'on peut mettre un vin, on va pas dire bas de gamme, mais un tout venant qui serait passé pour un grand cru? Est-ce que c'est possible, ça?
Je dirais oui, mais c'est très rare.
C'est très rare.
Vous pouvez avoir un vin. Moi, je me rappelle un ami, puisqu'on est dans les anecdotes, on y reste.
Allez.
Qui connaissait bien les vins et qui achetait des vins que dans des conditions extrêmement particulières. Si flair est la bonne affaire, et là, le vin en question, c'était un vin de la région de Tarragone. Donc, Tarragone, 3 francs le litre, hein, à peu près, à l'époque. Et avec son frère, il buvait un verre, c'était 10 heures du soir. Puis il le regoutait à 11 heures, à minuit, etc. Et ils en buvaient toute la nuit. Et si le dernier verre, à 6 heures du matin, était excellent, alors ils en achetaient un stock. J'ai goûté le vin en question. Il s'était affublé d'un nom qui ressemblait étrangement à Chambertin. Ça s'appelait Chaberton en espagnol. Mais je peux vous dire que ce vin, à peut-être 2,50 francs la bouteille, était magnifique. Donc, de temps en temps, il y a des surprises extraordinaires. Mais il y a quand même une certaine corrélation entre le prix du vin et sa qualité.
J'ai reformulé ma question. Est-ce que l'œnologue Penet aurait pu se faire avoir par une fraude?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il s'est fait avoir en cas de non-fraude, mais on a envie de dire en cas de fraude à plus forte raison.
D'accord.
Et je suis persuadé que je trompe qui je veux avec une fraude. Ah oui, je peux piéger des gens, ça c'est sûr. Alors, encore une chose, je reviens sur les grands vins. Oui. Vous voyez, il y a des vins qui sont extrêmement coûteux, et puis comme on aime bien de temps en temps céder à un caprice, on s'offre de temps en temps une bouteille à 100, 200, 300, etc., pour dire qu'on l'a bu. Il y a des concours mondiaux sur certains cépages, et notamment un concours des chardonnays du monde. Alors, sont rassemblés une centaine ou 200 chardonnays de différentes régions, donc du Chili, d'Italie, d'Espagne, de Suisse, bien entendu, de France, on va en tout cas pas l'oublier, des Américains. Très bien. Et pour moi, je le dis, bien que supporter des vins genevois, les meilleurs chardonnays sont ceux de Bourgogne, ceux de la côte de Beaune, entre Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet. Ça, c'est la terre promise. Alors, on sait très bien qu'un Montrachet, un Corton Charlemagne, ça peut être des merveilles. Mais, dans le concours des chardonnays du monde, sur les 10 meilleurs, il y avait 5 chardonnays du Nouveau Monde. Donc, infiltré parmi les plus célèbres et les plus coûteux, peut-être un vin suisse, peut-être un vin espagnol, peut-être un vin chilien ou australien, que sais-je. Donc, voyez, les grands vins, mais oui, ils existent, on va pas les dénigrer. Il y en a qui sont faits miraculeusement sur des terroirs privilégiés. Mais, il y a des outsiders extrêmement sérieux.
Restez sur Radio Cité Genève, nectar.jeu.ch. Dans un instant, nous allons parler de la grande fraude avec Aristide.
Production suisse.
Yo ya no aguanto esta soledad, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado. Estoy solo desde hace meses, difícil es aceptar que en los brazos de otro hombre duerme. Y aún sigo soñando cómo sería volver a tener aquí a mi lado. Sé que no te fui buen hombre. Entiendo bien el por qué ya no respondes a mis mensajes ni a mis llamadas. No puedo decir que estás equivocada. El equivocado soy yo. Ahora estoy ahogado en dolor, nadando en este mar de sufrimientos, pero seguro que él no te ama como yo. El equivocado soy yo. Ahora estoy ahogado en dolor, nadando en este mar de sufrimientos, pero seguro que él no te ama como yo. Esta soledad, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado. Estoy solo desde hace meses, difícil es aceptar.
pequeños brazos de otro hombre duerme. Y aún sigo soñando cómo sería volver a tenerte acá a mi lado. Sé que en mí piensas y que me extrañas cuando a su lado despiertas. Sé que es mi culpa, aunque todo te daba. No puedo decir que estás equivocada. El equivocado soy yo. Ahora estoy ahogado en dolor, nadando en este mar de sufrimiento. Pero seguro que él no te ama como yo. Esta soledad, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado. Estoy solo desde hace meses. Difícil es aceptar que en los brazos de otro hombre duermes. Y aún sigo soñando cómo sería volver a tenerte aquí a mi lado.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour sur Radio Cité Genève, nectar.ge.ch, comme tous les lundis, nous parlons vin et aujourd'hui, Aristide, nous parlons fraude et là, parlons grande fraude.
Voilà, une grande fraude extraordinaire. C'est un vrai roman policier et les scénaristes de Hollywood avaient une trame toute prête pour faire un film absolument sensationnel. Est-ce que vous avez entendu parler du faussaire qui s'appelait Rudy Kerniawan?
Non, moi jamais.
Jamais, bon. C'est un Chinois, il s'appelait pas Rudy Kerniawan. Il avait un autre nom en trois syllabes chinois, c'est Monsieur Zhen Wang Huang.
D'accord. Voilà.
Alors Monsieur Zhen Wang Huang, il a tout de suite pris un pseudonyme. Il est né à Jakarta, donc en Indonésie, de parents chinois. Et en Indonésie, il y a des problèmes raciaux, des problèmes communautaires, dans le sens que les Chinois étaient extrêmement mal vus de la population autochtone musulmane. Donc, première falsification, ce personnage a pris un faux nom.
Breton.
Et c'était Rudy Kerniawan. Pourquoi Rudy Kerniawan? Ne riez pas, s'il vous plaît. Eh bien, c'était le nom d'un champion indonésien, champion du monde de badminton.
Ah.
Donc, pour passer inaperçu, être agréé, rien de mieux que d'appeler son fiston Rudy Kerniawan. Voilà. Alors, usurpation aussi d'identité, c'est-à-dire que le personnage en question n'a jamais bien su d'où il venait. Apparemment, il venait de nulle part, mais d'abord, il s'est fait passer pour un héritier chinois. Ses parents auraient eu de monstrueuses brasseries qui lui auraient procuré une fortune de base. Et puis après, on s'est aperçu que ses parents n'étaient pas du tout des grands brasseurs chinois et qu'ils n'avaient pas de fortune du tout. Ambition de la part du personnage qui émigre vers les États-Unis en 2000 avec des papiers falsifiés, bien entendu, et un permis pour étudier aux USA. C'est un permis qui était valable pendant 3 ans.
Mm-hmm.
Donc, pendant 3 ans, ce personnage étudie et il trouve un mentor expert en vin qui s'appelle Paul Wasserman. Et Paul Wasserman, qui a pour dada les grands vins de Bourgogne, les rouges d'ailleurs, les crus de la Côte de Nuit. Donc, voilà, nous voyageons de Nuit-Saint-Georges à Vaune-Romanée, nous aboutissons à Gevrey-Chambertin, en étant passé par Moret-Saint-Denis, Chambol-Musigny. Il se familiarise au vin rouge, jusqu'au moment où son passeport, son autorisation d'étudier est échue, et là, il entre dans une certaine clandestinité, sous un autre faux nom, avec un faux passeport. Il a eu au total une dizaine de faux passeports, ce monsieur, ce qui est quand même pas mal, et il s'établit à Los Angeles, et il entre en contact en 2004 avec un personnage qui organise les grandes ventes aux enchères, et il s'acoquine avec lui. C'est un personnage... ça s'invente pas, il y a eu comme bandit aux États-Unis Al Capone. Ce monsieur s'appelle John Capone, mais ça s'écrit autrement, hein, K-A-P-O-N. Et donc John Capone et Rudy Kerniawan s'entendent comme larrons en foire pour organiser les ventes, des ventes extrêmement prestigieuses, avec des bouteilles qui partent à peu près à $15,000. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes, les connaisseurs achètent, et à ce moment, Kerniawan est reconnu comme un des meilleurs experts mondiaux. C'est-à-dire qu'on lui prête des qualités de dégustateur hors normes et aussi une mémoire. Et il se trouve qu'il se lie d'amitié profonde avec quelques vignerons célèbres de Bourgogne, non des moindres, le domaine Rousseau, qui est par exemple connu dans la Côte de Nuit, etc. Et il épate les gens. Ouais. C'est un virtuose du bluff, le gars. Il peut parler d'un vin de Latache, 1937, qui est quand même plus équilibré qu'un vin de Latache de 1934, etc. Il épate les gens, il a des connaissances, etc. Je pense que ce gars ressasse des lieux communs, hein, parce que moi aussi j'arrive à répéter que le Chambolle Musigny est plus souple et plus féminin qu'un Gevrey Chambertin, que le Volnay a des senteurs de violette, que le Pommard est comme ci, comme ça, etc. Donc le gars d'une habileté diabolique, et il ensorcelle les vignerons bourguignons.
Et ça a duré combien de temps, cette affaire ?
Alors ça n'a pas duré très très longtemps, parce que aussi vigneron célébrissime de Bourgogne, un grand domaine, c'est le domaine Georges Roumier, à un moment donné, Roumier a des indices, des soupçons très forts qui est fraude sur ses vins à lui. Et lui-même est un expert américain à ce moment, en 2007, accuse formellement Rudy Kerniawan de falsification.
Eh ben.
Voilà. Le personnage est assez protégé à ce moment. Il faut dire que c'est un millionnaire, il s'est mis des millions dans la poche, il s'est aussi endetté pour des millions, il mène grand train, donc il a des Patek Philippe à son poignet, ce qui est très bien pour l'industrie genevoise, n'est-ce pas ? Il roule Maserati, etc. Et ce qui fait partie de sa stratégie, sans aucun doute, c'est le fait qu'il est extrêmement généreux. Il donne des réceptions fastueuses et à des collectionneurs, il permet de déguster des vins d'anthologie, mais qui, bien entendu, sont des faux. Et alors, pour aujourd'hui, on a encore le temps de vous raconter le moment où M. Rudy Kerniawan s'est fait coincer.
En moins de 5 minutes.
En moins de 5 minutes. Parti. Rudy Kerniawan se fait coincer. Donc, il y avait eu quand même dépôt de plainte par la maison Roumier et cet expert américain dont je viens de parler. Le FBI avait ouvert une enquête, mais elle n'était pas aboutie. Et voilà qu'à un moment donné, Kerniawan met en vente des vins du domaine Ponceau, très célèbre domaine qui est assis principalement à Moret-Saint-Denis. Entre parenthèses, Moret-Saint-Denis, c'est vraiment à la hauteur de Chambolle-Musigny, de Volne-Romané, Gevrey Chambertin. C'est des vins absolument extraordinaires. Et dans le domaine Ponceau, il y a deux chefs de file, si on peut dire. D'une part, le fameux Claude La Roche, et d'autre part, le fameux Clos Saint-Denis, dont le nom est accolé à celui de la commune. Voilà. Et voilà-t-il pas que monsieur Kerniawan met en vente des vins qui sont antérieurs à la production de Claude Laroche par la maison donc de Laurent Ponceau. Voilà ce qui s'est passé. Ouais, on vend des vins qui n'existent pas. En réalité, Laurent Ponceau avait déjà eu des doutes parce que du domaine Ponceau, Kerniawan avait vendu des Latache, donc célèbre vin de Volne-Romané, 1929. 1929, comme par hasard, l'année du siècle. Voilà. Et Laurent Ponceau pensait qu'il n'en existait pas. Mais c'était l'époque où l'étiquetage n'était pas fait de manière retour. Bon, bref, il l'a interpellé, il l'a rencontré, il a pris l'avion pour essayer de le prendre la main dans le sac. Et ça n'a rien donné. Et Kerniawan était véritablement confondu le jour donc où il a mis en vente des Clos Saint-Denis. Je ne sais plus quelle année, mais... Laurent Ponceau était placé, lui qui a repris le domaine en 83, pour savoir que il y a eu des Clos Saint-Denis de sa maison à partir de 1982 seulement. Donc, il était impossible. Donc, quand il a su, en lisant le catalogue, qu'il y avait ce vin, il a téléphoné aux organisateurs pour que les Clos Saint-Denis, 1970, soient retirés de la vente, et ils l'ont immédiatement été. Mais ça n'a pas suffi à éteindre le feu, et Laurent Ponceau a pris l'avion pour New York, et il était là, en tribunal, à Brooklyn, pour confondre le faussaire. Voilà. Alors, pour achever l'émission, on va lui adresser un petit coucou dans sa prison à New York. Voilà. On lui fait un petit coucou, il a été condamné à 10 ans, en 2014. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire, encore 5 ans à peu près?
Peu
de patience, que diable. Voilà, alors un petit coucou à Rudy Kerwanian, et au revoir, chers auditeurs.